Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Pour se protéger de la pandémie de coronavirus, la plupart des nations ont choisi de confiner leurs citoyens et d'interrompre les activités économiques. Conséquence, pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la disparition de leurs revenus, les gouvernements ont débloqué des aides importantes, très importantes. Et pour se procurer les finances nécessaires, qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros ou de dollars, il a fallu s'endetter. C'est le cas de la France, par exemple, dont l'endettement devrait atteindre à la fin de l'année 115 à 120% de son produit intérieur brut. De son côté, l'Europe des 27 hésite à mutualiser son endettement et l'Afrique cherche à éviter d'aggraver le sien, qui était déjà significatif avant la crise. D'où les questions qui vont être posées dans cette émission. La dette est-elle un bon instrument pour faire face aux crises? L'histoire donne-t-elle des exemples d'un tel recours universel à l'endettement? Toutes les nations sont-elles égales face à ce mécanisme? Enfin, ces dettes devront-elles, seront-elles remboursées? Des questions auxquelles répondront trois économistes que je vous présente maintenant. Bonjour, professeur Emmanuel Acabrou.
Bonjour.
Emmanuel Acabrou, vous êtes à Abidjan, vous êtes professeur d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous y enseignez la macroéconomie, les questions financières et monétaires, vous y dirigez les masters de recherche en économie, vos écrits sont pour l'essentiel consacrés aux économies ouest-africaines et sont publiés dans de nombreuses revues scientifiques internationales. Avec vous dans cette émission, Ishak Diwan, bonjour.
Bonjour à tous.
Ishak Diwan, vous êtes professeur à Paris Sciences et Lettres, groupement d'universités et de grandes écoles parisiennes où vous détenez la chaire d'économie du monde arabe. Vous dispensez en particulier vos cours d'économie à l'École normale supérieure de Paris. Votre dernier livre, Chronic Capitalism in the Middle East, a été publié l'an dernier aux éditions Oxford University Press. Et je termine cette présentation par vous, Jérôme Héricourt, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Héricourt, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille et conseiller scientifique au CEPI. L'un de vos derniers travaux pour ce centre de recherche en économie internationale, l'un des principaux en France, porte sur le surprenant retour en grâce de la monétisation comme moyen de financement des dettes publiques. Et puis, bien sûr, des reportages dans cette émission. Nous rejoindrons Domitille Piron à Cuba, Coralie Pierret à Bamako et Joël Bronner à Athènes. La France a fait savoir qu'à la fin de l'année 2020, son endettement extérieur atteindrait 115% de son produit intérieur brut. Certains évoquent même 120%. Il y a 6 mois, cette annonce aurait probablement provoqué un cataclysme politique et économique. Mais l'annonce a été faite sans provoquer le moindre remous. On l'a à peine remarqué. Est-ce que la dette, l'endettement, est devenu quelque chose d'économiquement correct à la faveur de cette crise, Ishak Diwan?
Oui, l'endettement aujourd'hui est la façon de faire de la guerre. Les gouvernements, aussi bien en Europe, aux États-Unis, dans les pays africains que partout au monde, sont concentrés sur gagner la guerre du Covid, faire face à des chocs externes dans beaucoup de pays, et cet effort est financé par de la dette, des niveaux jamais vus. Dans les pays du G20, par exemple, les dépenses sont de l'ordre de 10% du PIB, à peu près 9 à 10 trillions de dollars dépensés, et surtout financés par la dette. On essaie de régler les problèmes d'aujourd'hui en se disant qu'on résoudra la note plus tard, et à voir comment cela pourra se passer.
Jérôme Héricourt, est-ce que la dette est un moyen intelligent ou est-ce que finalement c'est le seul qu'on ait de résoudre cette crise?
Ah ben Jean-Pierre, je dirais que la réponse est dans la question. Pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a. Hein. C'est historiquement, si vous voulez, la dette, vous l'avez dit dans votre petit mot d'introduction, la dette, c'est un moyen de compenser le fait que la dépense privée du côté des ménages et des entreprises s'est effondrée. suite à des circonstances exceptionnelles. Hein. Ce n'est pas une réaction endogène de l'économie par rapport à une crise financière comme une 2008. C'est une
réaction endogène, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire qu'en 2008, vous avez une crise financière qui est due à un dysfonctionnement interne à l'économie, et donc l'économie entre en récession, les agents privés compressent leurs dépenses, et donc l'État arrive et compense avec un supplément de dépenses et un supplément de dettes. Là, vous avez une épidémie qui conduit les gouvernements à dire « bon bah, écoutez, on va arrêter le fonctionnement de l'économie partiellement pendant un certain temps pour limiter le nombre de décès ». Et en faisant ça, on affecte très très violemment la dépense privée, en même temps qu'on contraint très très fortement la capacité de l'économie à produire. Donc, effectivement, la dette, elle apparaît comme un moyen pour l'État de financer de la dépense publique pour compenser cette baisse de la dépense privée, en même temps que cette dépense publique supplémentaire, elle permet dans un premier temps de financer des dépenses d'action contre l'épidémie, hein, des dépenses de santé.
Emmanuel Acabrou, vous pensez que le recours à la dette, c'est un bon investissement ?
En période de crise, on a deux instruments de politique économique, hein, la politique budgétaire puis la politique monétaire. Alors, on note que les pays développés en général et les pays d'Afrique pays en voie de développement en particulier, se sont endettés juste après la crise de subprime pour contrer la crise. Donc, les pays étant déjà endettés, ils ont une marge de manœuvre limitée. Mais on ne peut pas faire autrement que de s'endetter pour relancer l'économie. Mais le problème de l'endettement, c'est sa soutenabilité, la soutenabilité de la dette. Et donc, cette soutenabilité dépend de la croissance économique, dépend du taux d'intérêt, dépend des recettes, des ressources générées. Donc, ce n'est pas un problème de s'endetter si la dette est soutenable. Mais en temps de crise, le mieux, c'est de combiner les deux politiques, la politique budgétaire et la politique monétaire. On enseigne que la combinaison de ces deux est plus efficace pour relancer l'économie. Donc, je pense que en plus de la politique budgétaire qui permet de s'endetter, il faut aussi utiliser une politique monétaire pour essayer de faire face à la crise. Il ne faut pas privilégier un seul instrument.
Alors on sait que la France et l'Allemagne tentent de convaincre les 27 de mutualiser la dette publique, en particulier en faveur des pays les moins riches d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, Ishak Diwan ?
Je crois qu'on voit l'Europe devenir plus une fédération et les pays plus riches accepter d'emprunter pour le dépenser dans les pays plus pauvres et aider les pays comme l'Italie ou l'Espagne à faire face aux très grandes dépenses qu'elles ont dû faire sans avoir les moyens financiers d'emprunter des gros montants. Donc cette dette est mutualisée et c'est un grand pas pour l'Europe.
Elle ne l'est pas encore, Jérôme Héricourt, cette dette, hein ?
Non, mais Ishak Diwan a raison de souligner que c'est un grand pas en avant. C'est vrai que l'Union européenne, enfin plus exactement la zone euro, c'est une construction bizarre parce que on a une politique monétaire qui est totalement fédérale, d'accord, avec une monnaie unique et une banque centrale qui prend les décisions pour tous les membres de cette union monétaire. Et de l'autre côté, on a autant de politiques budgétaires nationales et donc autant de taux d'intérêt sur la dette à 10 ans. Donc là où l'Allemagne emprunte à 10 ans à -0,42%, la France emprunte à -0,012% à 10 ans, mais l'Italie emprunte à +1,52%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs, pour consentir à prêter de l'argent à l'Italie, demandent un taux d'intérêt bien plus élevé qu'à la France ou à l'Allemagne. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est très intéressant parce que ce que la Commission européenne dit, et la Commission européenne dit, moi je vais emprunter de l'argent en mon nom, au nom de l'Union européenne, et je vais redistribuer cet argent, au moins une partie de cet argent, les deux tiers, 500 milliards d'euros, sous forme de subventions, hein, deux tiers sous forme de subventions, pas de prêts qui seront remboursés par les États après, mais sous forme de subventions à chacun des pays en fonction de la dureté avec laquelle l'épidémie les a frappés. Et là, c'est très nouveau parce qu'on parle de fait de transfert. De transfert, oui, tout à fait, entre les pays de la zone euro.
Emmanuel Acabrou, est-ce que vous voyez, vous, positivement, le surgissement de l'Europe en tant que fédération ? Est-ce que de la crise, à travers cette dette, pourrait naître, en tout cas, un nouveau pôle fort de stabilité économique si, comme le dit Ishak Diwan, on fait des pas vers une fédération? Est-ce que cet endettement collectif est un facteur économique, bien sûr, mais aussi politique important?
Il faut dire que contrairement aux États-Unis, dans une union monétaire, il faut, en plus de la politique monétaire commune, il faut un budget fédéral pour régler les problèmes en cas de crise. Contrairement aux États-Unis, qui disposent d'une dette fédérale, l'Europe n'a pas de dette fédérale. Donc, chaque pays emprunte sur les marchés à un taux d'intérêt qui est associé à sa solvabilité. Je voudrais dire que dans l'Union européenne, l'Allemagne, la France, il y a des pays qui sont plus forts économiquement, d'autres moins. Donc ceux qui sont très solvables empruntent à des taux d'intérêt faibles, contrairement aux pays fragiles comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui, étant moins solvables, payent des taux d'intérêt élevés pour emprunter. Donc il est intéressant d'avoir une dette fédérale, comme le projet qui va voir le jour, pour permettre à la zone euro d'emprunter à un taux unique. Donc ça va permettre aux pays moins fragiles de bénéficier de la crédibilité. Aux pays plus fragiles, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, de bénéficier de la crédibilité de l'Allemagne et des autres pays plus forts économiquement, en empruntant des taux d'intérêt uniques. Voilà, c'est l'intérêt et ça permet de montrer une solidarité entre les pays de la zone euro. À quoi ça sert de se mettre ensemble si on ne peut pas s'entraider? Donc je pense que c'est un bon projet et que ça permettrait à l'Europe d'avancer et de savoir que montrer aux autres, aux pays fragiles, qu'on est ensemble, on peut s'aider, sinon ils risquent de quitter la zone euro, comme la Grèce, ils ont plusieurs fois menacé de quitter la zone euro.
Alors, Emmanuel Acabrou, vous venez à plusieurs reprises de parler de la Grèce, c'est un des pays dont la dette a défrayé la chronique au lendemain de la grande crise de 2008. Aujourd'hui, l'économie grecque est en meilleur état, mais sa dette reste importante et risque de gonfler encore, car la pandémie de coronavirus fait planer une grave menace sur sa principale ressource économique, qu'est le tourisme. Le FMI prévoit une baisse du produit intérieur brut de 10% cette année. Alors évidemment, le gouvernement hellène soutient le projet d'une dette européenne commune dont on parlait à l'instant. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Joël Bronner à Athènes.
Avec la marine marchande, le tourisme est l'un des deux moteurs de l'économie grecque. L'an dernier, le pays a reçu plus de 30 millions de visiteurs, soit près de 3 fois sa population. À Athènes, l'acropole est un emblème de ce tourisme. Le jour de sa réouverture symbolique, mi-mai, les oiseaux étaient pourtant plus nombreux que les visiteurs. Et les scénarios les plus optimistes parient cette année sur un nombre de vacanciers réduit de moitié. Face aux difficultés économiques qui s'annoncent, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a salué cette semaine sur Twitter, je cite, « la proposition courageuse de la Commission européenne d'un ensemble de 750 milliards d'euros, principalement sous la forme de subventions financées par l'émission d'une dette conjointe. La barre a été placée haut », a-t-il ajouté. Ce type de mesure de soutien, Athènes l'appelait en effet de ses voeux, comme l'explique Nick Malkoutsis, qui dirige Macropolis, un site internet d'analyse économique et politique.
Athènes attendait une réponse claire et forte de la part de l'Union européenne. De mon point de vue, l'aspect symbolique de ceci est probablement aussi important aux yeux des Grecs que les effets pratiques que cette politique pourra engendrer.
La Grèce garde en effet un souvenir amer des 3 plans de renflouement internationaux accordés à la condition de mener une politique d'austérité. Actuellement, la dette publique représente toujours près de 180% du PIB de la Grèce. Et le pays est engagé dans une politique de remboursement échelonnée jusqu'à la décennie 2060.
La crise économique précédente a engendré des déceptions. Le montant de la dette ne fait que s'accumuler et ce sont les futures générations qui devront en payer le prix. À chaque demande de la Grèce d'obtenir une forme d'allègement de sa dette ou bien des prêts sans condition, c'est-à-dire des transferts comme ceux qui sont à présent évoqués, la réponse était systématiquement « les règles sont les règles ». Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une volonté de l'Europe, non pas de contourner ces règles, mais de s'adapter aux circonstances exceptionnelles auxquelles nous faisons face.
La prudence, voire le scepticisme, reste malgré tout de mise dans dans certains médias grecs, qui s'attendent à des désaccords profonds entre Europe du Nord et du Sud. La solidarité continentale n'étant encore à ce stade que théorique.
Un reportage signé Joël Bronner à Athènes. Ishak Diwan, on entend dans ce reportage que la Grèce est endettée jusqu'en 2060, c'est-à-dire dans 40 ans. Est-ce que l'ensemble des pays européens est sur la même trajectoire? Est-ce que la dette se négocie à des échéances aussi longues systématiquement?
Oui, la maturité de la dette peut être longue. Je crois que ce qui compte, c'est le poids à court terme, c'est le service de la dette. Et la Grèce est confrontée à un choix. Étant donné que l'économie est plus faible, il n'y a pas de tourisme, il y a moins de rentrée de capitaux, est-ce qu'on continue à repayer la dette et donc en faisant de l'austérité domestiquement, ou est-ce que on décide que on ne va pas payer comme l'Argentine l'a fait? Et l'Europe, cette fois, a rendu la tâche, le choix plus facile à la Grèce en proposant de l'aider à alléger le fardeau, à réduire le poids de l'austérité qui est imposé par les conditions économiques. Le choc externe est important en Grèce, et on va en parler quand on va parler des pays émergents. Le Covid est arrivé comme choc externe. Moins de tourisme, moins d'argent qui rentre, des grandes sorties de capitaux de ces pays, et ça confronte les gouvernements à des choix importants. On paye ou on ne paye pas. L'Argentine, par exemple, a fait un choix tout à fait différent de celui de la Grèce, surtout parce qu'elle n'a pas ce parapluie européen pour la protéger.
Alors je voudrais vous poser deux, trois questions techniques pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire s'endetter. Auprès de qui est-ce que les pays européens, puisqu'on parle de cela, s'endettent-ils? Est-ce qu'ils s'endettent auprès de la Banque Centrale Européenne ou est-ce qu'ils s'endettent auprès des marchés, d'investisseurs privés? D'où vient cet argent? Qu'est-ce que c'est que cette dette, Jérôme Héricourt?
Les pays européens, si vous regardez les traités, ils ne s'endettent surtout pas auprès de la Banque Centrale Européenne, c'est interdit, hein. Les pays européens, ils s'endettent quand la France a un déficit public, elle émet des obligations qui sont achetées par des investisseurs sur les marchés financiers, d'accord?
Alors, une obligation, expliquez-nous ce que c'est, parce que tous nos auditeurs ne le savent pas.
C'est un titre de dette qui donc a une valeur et qui promet un coupon, un rendement, d'accord? Et donc, ces obligations, elles sont achetées par des investisseurs qui représentent en fait des gens qui ont de l'épargne à placer, d'accord? Par exemple, de l'épargne en provenance de Chine, en provenance du Japon, en provenance d'autres pays du monde. Alors maintenant, ce que la Banque Centrale Européenne fait depuis plusieurs années, comme la Réserve Fédérale Américaine, comme la Banque d'Angleterre, comme un grand nombre de banques centrales dans le monde, c'est qu'elle rachète les obligations. Elle n'a pas le droit de les acheter directement aux États, puisqu'elle n'a pas le droit, puisque les traités interdisent que la Banque Centrale achète directement ses obligations, mais elle les rachète sur le marché secondaire. D'accord? Et ça s'est fait dans le cadre...
C'est-à-dire le marché secondaire?
Eh bien, votre investisseur institutionnel qui a acheté une obligation française, il peut décider de la revendre à d'autres investisseurs ou à la Banque Centrale Européenne. Et donc là, la Banque Centrale Européenne rachète massivement depuis plusieurs années des obligations d'États européens dans le cadre des politiques dites d'assouplissement quantitatif, pour faire baisser les taux d'intérêt, pour garder les taux d'intérêt sur ces dettes à un niveau faible ou à un niveau plus bas que ce qu'il serait si la Banque Centrale Européenne n'intervenait pas, et donc conserver la soutenabilité de ces dettes.
Ishak Diwan, techniquement, comment est-ce que le fait que la Banque Centrale Européenne achète des obligations sur un marché secondaire maintient les taux d'intérêt à un niveau faible? Et donc le coût d'emprunt des pays européens à un niveau faible?
En fait, ce qu'on observe, c'est que les marchés financiers se sont effondrés. Les compagnies, les particuliers qui détiennent des titres ont peur de l'avenir, ne voient plus, n'ont plus de visibilité claire par rapport à l'avenir, et donc préfèrent détenir de la liquidité plutôt que des titres. Le prix de ces titres s'est effondré, on voit les taux d'intérêt à long terme remonter, les bourses bourses se sont effondrées d'à peu près 30% en moyenne. Et donc la politique monétaire a consisté à racheter ces titres en mettant de l'argent, du cash, sur les marchés. Les gros portefeuilles préfèrent détenir du cash aujourd'hui. Et cela fait baisser aussi les taux d'intérêt et maintiennent une liquidité, permettent à l'économie de continuer à se financer, à rouler au ralenti, évidemment, en attendant les jours meilleurs. Ce que les banques centrales espèrent faire, c'est que avec une remontée en V de l'économie, les choses reviendront à la normale dans quelques mois, ou peut-être plus tard, on ne sait pas, et pourront revendre ces titres pour retirer de l'argent, du cash, du système. Et donc, ce qu'elles essayent de faire, en vérité, en intervenant, c'est de stabiliser les marchés et de permettre à la liquidité de continuer à circuler. Maintenant, le pari peut s'avérer très cher si la croissance ne remonte pas en V.
C'est-à-dire si elle ne remonte pas très rapidement, c'est ça?
Exactement, exactement. Repensez un peu, si vous voulez, à la crise financière de 2008, où l'économie mondiale a une crise cardiaque. Les banques centrales sont intervenues de la même façon et ont réussi à faire repartir l'économie 2 ans plus tard. Il y a quand même deux différences. Le choc est au moins 2 fois plus important qu'en 2008-2009. Il implique non seulement les pays riches, mais tous les pays émergents aussi. Et peut-être une autre différence qui se faufile, c'est que 2008-2009, on était encore en plein dans la globalisation, alors que maintenant, on commence à parler de plus en plus de déglobalisation, ce qui fera mal aux pays émergents surtout qui en avaient profité de cette globalisation.
Emmanuel Acabrou, ce que dit Shaikh Diwan vous semble frappé au coin du bon sens, cet endettement ajouté à la déglobalisation, c'est quelque chose qui menace les pays africains?
Oui, je vais redire les choses autrement ou synthétiser ce que ont dit les autres intervenants. Comment, en fait, la question revient à comment financer le déficit quand un pays n'a pas suffisamment de ressources? Le premier moyen, de façon générale, le premier moyen, c'est qu'on crée la monnaie, c'est le financement par création monétaire. Dans certains pays, comme dans la zone euro, c'est interdit, comme l'a souligné l'autre intervenant.
Jérôme Héricourt.
Jérôme Héricourt. Donc, il y a le financement par création monétaire. Ça veut dire que la Banque centrale et le gouvernement empruntent directement auprès de la Banque centrale. Ensuite, on peut aussi emprunter sur les marchés financiers au niveau domestique comme au niveau international. Mais au niveau domestique, il faudrait que ce marché existe et soit suffisamment développé. Si ça n'existe pas, alors il faut aller sur les marchés au niveau international. L'autre moyen que les pays en voie de développement en général utilisent, c'est d'emprunter auprès des bailleurs de fonds, c'est les emprunts multilatéraux, ou d'emprunter auprès de certains pays. C'est ce qu'on appelle les emprunts bilatéraux. Et enfin, un dernier moyen subtil pour les pays en voie de développement, et en particulier les pays africains, de financer leurs dettes, mais c'est au niveau interne. Lorsque un pays accumule des arriérés de paiement auprès des entreprises publiques et privées, c'est une façon pour ce pays-là de financer son déficit. Donc, dans certains pays en Afrique, on ne paye pas les fonctionnaires pendant 2 mois, 3 mois. On ne paye pas les fournisseurs de l'État pendant 3 mois, 4 mois, 1 an. Tout ça, c'est une façon subtile pour l'État de financer son déficit. Et donc, au niveau international, le financement, l'emprunt, ce qu'on appelle le lever des fonds sur les marchés internationaux, tient compte de la solvabilité des États. Et quand ça ne va pas, la Banque centrale peut intervenir, comme l'a soulevé le collègue, pour acheter les titres en question, injecter de la liquidité dans l'économie. Et donc, ça peut aussi, à terme, créer des bulles aussi.
Et est-ce que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest joue ce rôle?
La Banque centrale, non, ne finance pas le déficit des États. la Banque centrale prête à hauteur de 20% des recettes, mais c'est limité. On peut dire qu'on ne compte pas sur ça pour financer les déficits. Les États empruntent de plus en plus au niveau domestique sur le marché financier régional. De temps en temps, ils vont emprunter à l'étranger, au niveau international, sur les marchés. Mais la plus grande partie du financement, ce sont les emprunts auprès des bailleurs de fonds internationaux, Banque mondiale, FMI, et puis les emprunts bilatéraux auprès de la France, de la Chine, etc. Et de plus en plus, on note que la Chine intervient beaucoup dans le financement des économies africaines.
Absolument, Emmanuel Acabrou. D'ailleurs, les pays créanciers font des efforts en ce moment pour atténuer le choc des économies africaines. On l'a vu lors d'un des derniers G20, le Mali, dont les finances dépendent des cours mondiaux de l'or et du coton qu'il exporte, vient d'obtenir un moratoire pour sa dette. Le pays recommencera ses remboursements seulement en 2022, ce qui est quand même pas très loin. Ce moratoire est-il une chance ou faut-il aller plus loin et revendiquer, par exemple, l'annulation de la dette malienne? Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Coralie Pierret à Bamako.
Ils sont une dizaine, agglutinés autour d'un trou creusé dans une cavité presque souterraine. Nous sommes à Kouketo, un village à l'ouest du Mali, où le bleu des bâches abritant les chercheurs d'or s'étend à perte de vue. L'un d'entre eux est sur le site depuis plus d'un an.
Comme on est trop nombreux là, sinon, souvent on peut avoir 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos même. Ça dépend de la chance.
La quantité récoltée varie, mais aussi les revenus des orpailleurs, car le prix du kilo d'or est fluctuant, fixé sur le marché international. En ce moment, l'or s'apprécie. Depuis janvier 2020, son prix a augmenté de près de 15%. À Kay, la première région aurifère du Mali, Madi Keïta, le président de la Chambre des Mines, décrit cette ruée vers l'or.
L'or a flambé, tout le monde s'est intéressé. Il y a des sous-traitants qui sont maliens, mais dans notre région, il n'y a pas de société minière malienne. Il n'y en a pas.
Même si le secteur minier est l'un des plus importants, il représentait en 2018 22% du PIB, il n'y a aucune unité de transformation de l'or au Mali. Le minerai est exporté brut. Le pays est ainsi tributaire de la fluctuation du prix de l'or. Tributaire aussi du prix du coton, autre secteur essentiel, rappelle l'économiste Étienne Fakaba Sissoko.
S'il y a une baisse significative de ces prix-là, c'est l'économie malienne dans sa globalité qui va ressentir les effets négatifs de cela. Et ce sont ces effets négatifs qui amèneront une baisse de croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, c'est le pays qui ne pourra pas faire face au paiement de la dette, au paiement de ses engagements au niveau international.
Et les projections sont à la baisse. En plus de la crise sécuritaire, le Covid va faire chuter la croissance de 5 à 0,9% selon un rapport du FMI de mai 2020. Une des conséquences de cette crise est l'augmentation de la dette publique qui va passer de 39 à 45% du PIB cette année, toujours selon le FMI. Alors mi-mai, le club de Paris a adopté un moratoire pour le Mali, mais ce report du paiement de la dette accentuera les difficultés, selon Daouda Zedkane, militant du réseau CAD et du parti Sadi.
On va suspendre cette année et ce qu'on doit payer cette année va s'ajouter à ce qu'on doit payer en 2022, 2023, 2024. Donc, il y aura encore plus de charges. Il fallait exiger l'annulation pure et simple et sans condition de ces dettes-là. Parce que le taux d'intérêt est déjà insoutenable. Les dettes que nous sommes en train de payer sont précédemment empruntées par nos gouvernants. Le vérificateur général a produit tellement de rapports sur le détournement des fonds publics. Tout ça là, justifie l'illégalité de cette dette.
Si d'autres sont contre l'annulation de la dette, nombreux analystes questionnent son usage. Aujourd'hui, la dette est utilisée pour payer entre autres les frais de fonctionnement de l'État au détriment de l'investissement public nécessaire pour le développement. L'investissement qui ne dépasse pas 8,5% du PIB.
Reportage signé Coralie Pierret dans l'Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de ce nouveau remède à la crise qu'est la dette avec trois invités. Emmanuel Acabrou, professeur d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Jérôme Héricourt, professeur à l'université de Lille. Et Ishak Diwan, professeur à Normale Sup à l'école Normale Supérieure de Paris. Ishak Diwan, ce reportage, vous évoquez les pays émergents. La dette malienne, c'est à peu près aux alentours de 40% du produit intérieur brut. C'est quasiment trois fois moins en termes de proportion que ce qu'est la dette française. Et pourtant, il semble que les Maliens aient plus de mal à gérer leur dette que les Français. C'est un peu paradoxal ou pas?
Non, les pays les plus pauvres ont du mal à s'endetter. Dès qu'ils arrivent à 40-50% du PIB en dette, ils ont du mal à emprunter plus pour rembourser la dette et ils tombent en crise. J'ai trouvé le reportage très bon parce qu'il reflète très bien la situation des pays les plus pauvres et des pays africains en particulier. On reparlera peut-être plus tard des pays émergents qui sont dans une autre situation. La dette africaine a augmenté de 40 à 60% du PIB en moyenne.
Le PIB, le produit intérieur brut, hein, oui.
Oui, exactement, merci. Et rappelez-vous, donc dans les années 2000, il y a eu des grands efforts des organisations internationales pour réduire la dette africaine dans l'initiative des pays les plus pauvres, les plus endettés, l'initiative HIPIC. Et malgré cela, la dette a repris après que quand on ait éliminé une grande partie de la dette. C'est un point de référence, parce qu'on se demande aujourd'hui s'il faut refaire la même chose. Dans les années 2000, on avait des taux d'intérêt très bas, une économie internationale qui fonctionnait bien, des capitaux bon marché, beaucoup de pays se sont réendettés. Les dettes externes publiques donc, ont augmenté de 40 à 60% du PIB, mais aussi le secteur privé. Dans des pays africains émergents comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, ont aussi beaucoup emprunté. Il y a plusieurs trillions de dettes privées maintenant qui s'ajoutent à la dette publique. Dette privée plus difficile à gérer. Il n'y a pas ces moyens institutionnels de régler les problèmes de court terme et de réfléchir à des réductions possibles dans le long terme. Il y a eu déjà des initiatives, comme vous l'avez cité. Les organisations internationales en mai, avec les pays du G7 et du G20, ont décidé de suspendre le service de la dette des pays les plus pauvres, incluant les pays africains. Cela équivaut à une quinzaine de milliards de dollars en 2020. Effectivement, c'est une solution juste de moment. Il va falloir réfléchir à plus long terme si ces dettes sont soutenables ou pas, pour vous donner une idée.
Oui, allez-y.
Oui, non, juste pour comparer. Donc, le coût de la réduction de la dette des années 2000 était proche de 100 milliards de dollars. Donc, on en est... l'effort qui a été consenti maintenant est un effort d'urgence. Mais il va falloir réfléchir à quoi faire de cette dette africaine qui a beaucoup augmenté de façon plus soutenable.
Emmanuel Acabrou, vous entendiez ce reportage, hein, le militant interviewé par Coralie Pierret à la fin du reportage, qui disait oui, c'est très gentil le report du service de la dette, mais il va falloir le payer, et ça sera beaucoup plus d'argent à sortir dans les années à venir.
Alors, en fait, le report de la dette apporte une bouffée d'oxygène, un soulagement, c'est bien. Mais ce n'est pas la solution, en fait, pour régler les problèmes de l'Afrique. Les problèmes de l'Afrique et leur solution devraient se trouver en Afrique ou être recherchées en Afrique. Lorsqu'un pays s'endette, cela signifie que ce pays vit au-dessus de ses moyens. En d'autres termes, il n'a pas suffisamment de ressources ou bien l'épargne domestique est insuffisante. Donc il faut trouver un moyen pour... mobiliser davantage de ressources au niveau domestique. Donc, annuler la dette, reporter l'échéance, c'est apporter des solutions conjoncturelles à des problèmes structurels. Donc, il faut réfléchir autrement. On a toujours dit aux pays africains qu'ils doivent revoir la structure de leurs économies, diversifier l'économie, industrialiser l'économie, éviter d'exporter les matières premières brutes à l'étranger, il faut les transformer. Parce que lorsqu'on exporte les matières premières brutes, on exporte la valeur ajoutée, on exporte la richesse et l'emploi. C'est une des raisons pour lesquelles il y a trop de chômage en Afrique. Donc il faut penser et réfléchir à d'autres solutions en Afrique, en luttant par exemple contre les sorties illicites des capitaux, la corruption, mobiliser davantage le secteur informel. Il faut formaliser le secteur informel pour augmenter les recettes fiscales. Ce n'est pas la solution. Bon, ça apporte un soulagement, mais il faut trouver des solutions, en Afrique.
Jérôme Héricourt, il y a un mot qui court depuis le début de l'émission. Je pense que vous y avez fait allusion. Ishak Diwan l'a utilisé. On en parle dans les reportages. Emmanuel Acabrou vient de l'employer. Ce mot, c'est annulation. Est-ce que ces dettes vont se payer?
Ah, ces dettes. Quelles dettes? Pour parler de la situation européenne, qui est probablement celle que je connais le mieux, la question, effectivement, on arrive à des niveaux de dettes publiques qui sont quand même, bon, plus d'une année de production. Hein. Quand on dit que la France va atteindre un niveau de dette publique de 120 ou 125% du PIB, ça veut dire qu'il faut un an et deux ou trois mois de PIB pour rembourser le stock de dette. Pour la Grèce, on parle de 200% du PIB. Donc tout ça, ce sont des montants dont on imagine difficilement qui seront remboursables intégralement, sauf à contraindre les pays, comme on le fait pour la Grèce actuellement jusqu'en 2060, à ne pas investir dans l'éducation et finalement à pas faire un certain nombre d'investissements dans leur croissance future et dans leur développement futur. Maintenant, annuler la dette, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Comme on l'expliquait au début de l'émission, la dette, vous avez des gens qui achètent cette dette. D'accord ? Donc vous avez des épargnants derrière. Ne pas rembourser la dette, c'est flouer ces gens-là. Donc, c'est une arme à double tranchant qui pourrait s'imaginer assez facilement en Europe, puisque la Banque Centrale Européenne est engagée depuis des années dans le rachat massif de titres de dette publique pour en faire baisser le coût, pour faire baisser le taux d'intérêt payé sur cette dette, c'est qu'effectivement, hein, c'est une des options qui est débattue en ce moment, c'est que la Banque Centrale Européenne annule ses titres de dette dans son bilan. Ça me semblerait une option à envisager. C'est-à-dire que vu que ces titres, ils appartiennent à la Banque Centrale Européenne, vous n'avez pas d'investisseur privé qui est floué si ces titres sont annulés. Après, la solution encore plus radicale, qui est celle que j'évoque dans l'article que vous avez évoqué en début d'émission, c'est
la monétisation.
C'est la monétisation. C'est-à-dire que si on veut éviter que le stock de dette continue à grossir, sans recourir à des politiques d'austérité consistant à augmenter les impôts et à baisser les dépenses publiques au pire moment, c'est la Banque centrale qui crée une certaine somme d'argent qu'elle donne à l'État, littéralement, sans contrepartie, sans type de dette, pour financer ses dépenses. On peut imaginer ce type de mécanisme sur une durée limitée, pour des montants limités.
C'est ce qu'on appelle prosaïquement faire marcher la planche à billets ?
Alors, oui, c'est historiquement, on pense à ça. Cela dit, c'est ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est ce que fait la Réserve Fédérale Américaine et d'autres banques centrales depuis plusieurs années, depuis une décennie, lorsqu'elles créent de la monnaie pour acheter des titres de dette des États. Là, la différence, c'est que on doit quand même de l'argent. L'État, les gouvernements doivent quand même de l'argent aux banques centrales à travers ces types de dettes. La monétisation pure et simple, il n'y a plus de titres de dette. On n'augmente pas le stock de dette existant. Et c'est pour ça que ça en fait également une solution qui me semble intéressante.
Ça vous semble intéressant, Ishak Diwan, ce que propose Jérôme Héricourt ?
Ben oui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais il faut dire que le problème européen est très différent du problème africain. Et les moyens qu'on utilise sont aussi très différents. En Afrique, on ne peut pas imprimer de l'argent, ça fait tout de suite de l'inflation. Le grand problème qui se pose est celui de la monnaie étrangère. Est-ce qu'on a assez d'euros, de dollars pour emprunter, pour payer les importations qui sont l'alimentation, qui sont les médicaments, etc. Et le choc vient à travers surtout un choc externe. Il n'y a plus l'argent des travailleurs étrangers qui rentrent, les matières premières seront de moins. Le tourisme s'est arrêté et donc on se retrouve sans monnaie étrangère, on ne peut plus financer l'importation. On ne peut pas réagir de la même façon qu'en Europe pour relancer l'activité. Et donc les suspensions de la dette ont été en fait un instrument pour injecter de la monnaie étrangère rapidement dans ces pays. Donc il faut bien faire la différence. Le choc est différent et la réaction est différente aussi. en se disant qu'on verra plus tard quoi faire avec le stock de la dette. Mais pour le moment, on essaye tout simplement d'aider ces pays à importer ce dont ils ont besoin et d'aider les gouvernements à dépenser un peu plus pour mettre sur pied des filets de sécurité qui sont nécessaires, étant donné le choc extérieur, aussi bien que le choc intérieur. L'économie, qui pour des raisons sanitaires aussi, a dû fonctionner beaucoup moins vite.
Alors, là, on va changer de zone, car la région actuellement la plus touchée par la pandémie, c'est l'Amérique latine. Mais Cuba fait exception, seulement 82 morts et moins de 2000 contaminations. De plus, fort d'un système de santé qui est son principal produit d'exportation, Cuba a envoyé ses médecins en Afrique du Sud, au Togo ou en Angola, pour ne citer que ces pays africains. Les ressources que cela fournit au budget cubain seront très utiles pour lutter contre la crise économique qui sévit à Cuba, privée de ses touristes et dont la dette est un sujet souvent passé sous silence par les autorités. Mais en 2019, l'île a raté plusieurs échéances de remboursement de sa dette. Elle s'était engagée à payer maintenant, fin mai 2020, et souhaite évidemment bénéficier maintenant d'un moratoire. Écoutez ce reportage Éco d'ailleurs, signé Domitil Piron à La Havane.
Après 4 heures d'attente, Gretel Quesada et sa mère, à l'ombre d'un grand arbre en fleurs, attendent encore de pouvoir faire leurs courses. Parfois c'est pire, explique cette jeune maman qui a obtenu le ticket numéro 268. Elle est donc encore loin d'entrer dans le magasin.
Il faut forcément faire la queue parce qu'on a besoin de s'approvisionner en produits de base, les produits d'hygiène, la nourriture. Et c'est comme ça, il faut y passer au moins une journée entière. Et quand on n'a plus rien, alors on fait la queue à nouveau.
Les produits sont rationnés pour permettre que tout le monde puisse acheter. Et Cuba, qui importe 80% de son alimentation, a réduit de 75% ses importations au premier trimestre, selon certains économistes. Alors les files d'attente s'allongent toujours plus. La situation économique critique rappelle à certains la crise des années 90 après le départ des soviétiques. Mais pour la maman de Gretel, la situation est différente.
Non, à l'époque, il n'y avait pas la queue parce qu'il n'y avait rien, c'était différent. Il n'y avait aucun approvisionnement, alors qu'aujourd'hui, oui.
Le gouvernement cubain fait l'effort de subvenir aux besoins de sa population, mais en dépensant de l'argent qu'il n'a pas, a récemment avoué le président Miguel Díaz-Canel. Face à l'urgence alimentaire, la production agricole et les cultures de cycle court sont devenues prioritaires. Les investissements auparavant destinés au tourisme ont été réorientés. Le secteur touristique, qui pèse plus de 3 milliards de dollars dans l'économie cubaine, est à l'arrêt depuis 2 mois et avait déjà connu un net recul en 2019 avec les sanctions américaines. Dans la vieille Havane, vidée de ses touristes, règne un calme inhabituel. Pour 200 000 travailleurs du secteur privé lié au tourisme, c'est un coup dur. Ils ne recevront aucune aide ni compensation de l'État, alors ceux qui peuvent se réinventent. D'inspiration soviétique, le restaurant Tavarich a débauché 18 personnes. Anilson Chapotin fait partie des 3 employés qui travaillent encore uniquement pour de la vente à emporter.
Maintenant, on se concentre sur une clientèle cubaine, parce que je crois que les étrangers vont tarder à revenir à Cuba. 90% de nos clients étaient des touristes, alors maintenant on offre de la nourriture moins chère et plus accessible aux Cubains pour traverser cette période si difficile.
Beaucoup de Cubains risquent aussi de perdre leurs revenus en provenance de l'étranger. Les remessas, l'argent envoyé par les familles, principalement depuis les États-Unis et l'Espagne, seront sans doute affectées par la crise mondiale liée au coronavirus. La pandémie prive donc Cuba de ses principales entrées de devises. Et pour ne pas se retrouver en défaut de paiement vis-à-vis du club de Paris, la Havane a demandé 2 ans de répit, un moratoire de sa dette. Une dette qui avait déjà été restructurée en 2015 avec l'effacement de 8,5 milliards de dollars par les 14 pays créanciers dont la France, l'Espagne, le Canada et le Japon.
Un reportage signé Domitil Piron à Cuba. On était vraiment sur place, dans les rues de la Havane, dans l'ambiance chaude de cette merveilleuse ville. Ishak Diwan, Cuba et l'Amérique latine en général, c'est un cas de figure extrêmement différent pour ce qui est de l'endettement. Il y a une longue histoire de crise de la dette en Amérique latine. Est-ce que le continent est dans une situation bien meilleure pour gérer sa dette qu'il ne l'a été dans le passé ?
Non, pas du tout, malheureusement. C'est un très bon reportage, encore une fois. Cuba est presque un pays émergent, mais déjà, les tensions reflètent ce qui se passe dans les pays émergents, en particulier en Amérique latine. En vérité, on a l'impression qu'on s'approche d'une troisième crise historique. C'est-à-dire qu'on a la Grande Dépression, où il y a eu une crise mondiale. On a eu la très grande crise de 2008-2009, où c'est surtout les pays riches qui ont souffert. Et là, on s'oriente vers une crise où aussi bien les pays riches que les pays émergents risquent d'avoir très mal. Les pays émergents ont énormément, se sont énormément endettés dans les années 2000 pour plusieurs raisons. C'est les plus globalisés qui ont emprunté le plus. Ils ont emprunté des marchés et pas des gouvernements, donc grande différence avec l'Afrique. Et contrairement à la dernière grande crise de la dette des pays d'Amérique latine est de 1985, donc la moitié des années 80. Et c'est maintenant le point de référence. On va comparer la situation actuelle à celle de 85. Dans les années 80, c'est l'argent, c'est les pétrodollars qui étaient recyclés par les banques américaines vers l'Amérique latine. Dans les années 2000, c'est le fait que, surtout après la crise de 2009, il y avait beaucoup de liquidités excédentaires dans les pays riches qui ont été chercher des taux d'intérêt élevés, des revenus plus importants dans les pays émergents. Et cette dette a explosé dans les 10 dernières années. Elle se chiffre à des trillions de dollars. Elle n'est pas prise de banques internationales, mais plutôt de marchés de bons de trésor. Et donc, les prêteurs sont très dispersés et ne peuvent pas facilement s'organiser pour offrir des allègements de paiement. Je crois que la situation de l'Argentine aujourd'hui reflète bien ce genre de situation. Il est très difficile de s'entendre avec les emprunteurs quand on arrive dans une situation difficile, vu une situation de crise. Et il y a beaucoup de pays maintenant sur justement cette liste de pays à risque. La plupart des pays émergents commencent à rentrer là-dedans.
Dans la liste des pays à risque.
Exactement. Et il y a eu un mouvement de capital énorme qui est sorti de ces pays dans les 2-3 derniers mois, 100 milliards de dollars d'argent qui était investi dans les marchés financiers, dans les banques de ces pays sont sortis. C'est ça le choc le plus grand qui a été ressenti par ces pays. Beaucoup de pays, la Turquie, le Venezuela, le Brésil, ont dû dévaluer déjà leur monnaie, ce qui augmente le poids de l'austérité et du choc. Et d'aujourd'hui, donc, on s'oriente vers une très grande crise de la dette des pays émergents qui peut faire partie de cette déglobalisation dont on parlait, la déglobalisation des marchés financiers.
Merci Jacques Diwan. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Jérôme Héricourt. Merci Emmanuel Acabrou à Abidjan d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous retrouver pour écouter cette émission sur la dette qui mériterait de se poursuivre. On en reparlera certainement dans nos prochaines émissions. Vous pouvez nous retrouver sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.